Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement 13h09 sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Avant de passer à la chronique avec Rémi Villemur, je vous rappelle que le 19 mars prochain à 19h au Centre de glace Intact Assurance, c'est la classique annuelle Boulevard qui sera de retour pour une quatrième année. C'est notre Winter Classic. L'an passé, les Icemen de Saint-Isidore sont débarqués en autobus scolaire, en pantoufles de Fantex avec un crâne de taureau. Rien de moins, il y avait kidnappé le maire de la place. Let's go! Les boys ont gagné 4-3 en fusillade. Ils étaient bien heureux, ils ont bu juste en masse de bière. Ça tente d'être cette équipe extraordinaire de Ligue de garage qui va venir affronter les gens de Boulevard 102.1. Bien, t'as jusqu'au 27 février pour t'inscrire. Va sur le blvd.fm dans la section concours. Et cette année, en plus, Pascal, on va offrir des chandails d'hockey pour l'équipe gagnante avec leur logo grâce à Nagano. Alors, merci beaucoup au Centre de glace Intact Assurance de nous accueillir jeudi le 19 mars prochain à 19h.
Puis, juste pour vous montrer à quel point ça tente à l'équipe, c'est en train de se chicaner à savoir qui va jouer.
Exactement.
Donc, qui parmi Boulevard 101 sera sur la glace pour jouer contre vous ou votre équipe? Là? C'est tellement un bel événement, il faut venir. Puis en passant, on attend aussi du monde dans les estrades. Là. Laissez-nous c'est pas ça. Tout seul à regarder le hockey, s'il vous plaît.
En plein ça. Venez donner une petite volée au petit coq Mathias Turcotte qui se pense pour un joueur de la Ligue nationale de hockey puis qui se permet de critiquer Connor McDavid.
Il est humble, Mathias. Moi, j'aurais plus envie
critique
de donner...
Critique les joueurs de Team Canada.
Ouais, là, tout le monde est un peu critique dans son salon. Mais mettons, entre Yannick Marceau, Mathias, Maxime... Mathias, je passe en troisième position au niveau de manquer d'humilité. Là.
Venez donner une volée à Max Larouche qui n'arrête pas de critiquer Samuel Montembeau.
Là, il est blessé au bas du corps, on verra.
Exactement, on verra rendu là. On passe immédiatement à la chronique avec Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, qu'on adore et qui a une émission du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins avec Jacinthe Varel de 8 à 10. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, il fait soleil.
Ah oui, hein, c'est le fun quand le printemps commence à s'installer comme ça. Moi, ça me redonne énormément d'énergie. Rémi, très préoccupant ce qui se passe avec nos jeunes. C'est une étude qui a été publiée hier, alors qu'on mentionne que les gestes d'homophobie, de transphobie et de misogynie sont en hausse dans nos écoles. Du vandalisme dans des salles de classe qui servent à des lieux de rencontre pour la diversité, 20 drapeaux arc-en-ciel brûlés ou vandalisés dans nos écoles. Coudon, on est en train d'élever quel genre de génération, mon Rémi?
Ben, moi, je crois à la conclusion de ce rapport-là. J'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance dans la vie, que d'enseigner à des jeunes. Je l'ai fait jusqu'à l'année dernière. J'enseignais dans des écoles secondaires du public à Montréal, dans des quartiers quand même assez défavorisés. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Ça se passe souvent dans les corridors, entre les classes. Tu entends des trucs, tu vois les jeunes arracher effectivement certaines affaires. Puis, bon, ce que je vais vous dire là, deux choses. Moi, j'ai pris une résolution cette année. Il y a des gens qui décident, par exemple, de se remettre au sport, de mieux manger. Moi, j'ai pris une drôle de résolution. J'ai pris la résolution suivante. Quand quelqu'un, devant moi, me dit qu'il est préoccupé par un phénomène, je l'écoute. À une seule condition.
Vas-y donc.
S'il est prêt à mettre tous les facteurs d'explication sur la table. Hein? Parce qu'il y a des faux scandalisés dans la vie. Il y a des gens qui se disent scandalisés par quelque chose, interpellés par un enjeu, puis ils en font le cheval de bataille de leur vie. Puis quand on leur dit, tu sais que ça, ce qui te scandalise, ça s'explique de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Et certaines de ces personnes-là choisissent de regarder juste deux des trois facteurs. Ces gens-là, je ne les prends plus au sérieux. Je ne les prends plus au sérieux parce que, puis vous allez voir où je veux en venir. Là.
Vas-y.
Le rapport en question. D'accord? Ne met pas le doigt sur tous les facteurs explicatifs. On dit quoi? On nous dit, en gros, il y a de plus en plus de contenu misogyne en ligne. On a des influenceurs, on a des masculinistes. Andrew Tate. C'est vrai, en partie. Mais ce n'est pas tout ce qui explique le phénomène. Regardez, je vais vous poser une question.
Vas-y.
Est-ce que ça allait mieux depuis 20 ans dans les écoles?
Si ça allait mieux depuis ça 20 ans, de, si autrement dit, on est en progression dans les écoles depuis 20 ans, certainement pas.
On nous dit qu'il y a une recrudescence. On nous a dit que c'était mieux avant et que là, ça revient à un niveau qu'on observait dans les années 80-90. Mais on nous dit dans le rapport que ça s'était amélioré dans les dernières années et là, soudainement, ça se remet à mal aller. C'est ce qu'on nous dit dans le rapport. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit un retour du phénomène. On ne nous dit pas que ça s'est jamais amélioré au fil des ans. Alors, si ça a changé, est-ce que ça se pourrait qu'il faudrait regarder vers le visage de nos écoles? Le profil démographique de nos écoles a changé. Dans certaines écoles à Montréal, 80% à 90% de la population étudiante est issue de l'immigration. Et il y a beaucoup d'immigration arabo-musulmane. Je rappelle que quand il y a eu l'affaire Bedford, qu'est-ce qu'on nous a dit? Des professeurs musulmans empêchent les garçons de jouer avec des petites filles. C'est ce qu'on nous disait.
Ouais, pas les mêmes mœurs et coutumes que nous. En effet, c'est un excellent point que tu amènes.
Moi, je ne dis pas, et là, je veux juste être bien cité, et je ne veux pas qu'on monte, on fasse du montage avec ce que je viens de dire. Là. Je ne dis pas que ça s'explique juste par ça. Je dis, par contre, que c'est au moins un des deux facteurs d'explication. Et je dis que, puis en passant, on a d'autres exemples. Hein. On a Raphaël Provost, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu à Boulevard. C'est le dirigeant d'un organisme qui s'appelle Ensemble pour la diversité. C'est quelqu'un qui se trouve à être homosexuel. Ce gars-là, il dit « Je fais la tournée des écoles et je leur parle d'homosexualité et je me fais insulter, je me fais lancer des affaires au visage. On me dit « Sors de la classe. » Et quand on lui demande « C'est qui te demande de faire ça? » Il le dit, lui. Il dit « Ben écoutez, c'est beaucoup, je dois le dire. Ça me fait mal à la bouche de le dire, mais c'est beaucoup des jeunes issus de l'immigration. » Donc, moi, je refuse que l'on parle de ce sujet-là avec des gens qui refusent, eux, de mettre sur la table tous les facteurs d'explication. Pourquoi? Parce que je doute de leur véritable volonté à régler le problème. Quand on veut régler un problème, on met tous les facteurs d'explication du problème sur la table. Sinon, on ne veut pas le régler, le problème. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu es de l'avis philosophique de ceux qui disent ce n'est pas n'importe quel argument qui se vaut et ce n'est pas n'importe qui peut débattre?
Ben, si vous... je comprends pas où tu veux en venir.
Parce que tu dis, moi, je veux parler avec ces gens-là seulement s'ils mettent sur la table absolument tous les arguments qui peuvent être pris en compte dans la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne peuvent pas débattre ou qui ne peuvent pas parler de certains sujets parce que, justement, ils se bloquent là-dedans?
Bien, c'est parce que je trouve... Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Tout le monde a droit à son opinion. Moi, j'ai une vision américaine de la liberté d'expression. Là.
Ouais.
Donc, moi, c'est all the way. Sauf que, soyons sérieux, si quelqu'un refuse de regarder dans une direction... et que dans cette direction-là, on a des facteurs explicatifs d'un certain problème, je trouve que cette personne-là a moins de légitimité et elle a moins de pertinence. Son capital intelligible et rhétorique est moins intéressant que quelqu'un qui dit « Écoutez, moi, là, je suis vraiment préoccupé par le problème. La preuve, on va tout mettre les cartes sur la table. Fait que regardons. » Mais je comprends, en même temps, là, je veux dire, soyons honnêtes, je comprends le danger que ça représente de parler de l'immigration puis de cibler surtout des mineurs qui sont issus de l'immigration. Ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, puis je viens de le dire, ce sont des mineurs.
Ouais.
Donc, je comprends, des fois, je comprends les gens ne pas vouloir en parler. Mais malheureusement, c'est un problème qui s'explique aussi de cette façon-là. Donc, si la véritable priorité, c'est de régler le problème... Ben, il faut pouvoir en parler. Puis mm-hmm. les exemples sont là. On l'a eu à Bedford, on l'a eu dans des organismes qui luttent contre l'homophobie, qui le disent, on se bute à ce phénomène-là, on l'admet, on le reconnaît. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je regrette, là, mais je demandais à des jeunes des fois, est-ce que vous savez c'est qui Andrew Tate? Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas c'était qui Andrew Tate. Là. C'est Andrew Tate, c'est à un moment donné, ça commence à ressembler à un homme de paille aussi. Ah, puis en passant, Andrew Tate, il est musulman. Je peux juste ne pas le préciser aussi.
En effet. Hé, hey, Rémi, j'ai pas le choix de faire le saut avec l'autre sujet que tu venais nous parler. On en a parlé aussi avec Antonine de ces demandeurs d'asile-là qu'on a accueillis sans enquête sur eux, sans entrevue, parce que le nœud de ce que tu nous expliques, c'est une immigration massive. Puis ça, c'est pas le kid dans l'école qui a le contrôle là-dessus, mais c'est notre gouvernement.
Ah, tout à fait. Ah ben oui. Ah ben oui, le jeune, à la limite... c'est une victime de ça parce que lui, il n'est pas dans une position où il peut véritablement s'intégrer. Moi, je me mets à la place de ces jeunes à qui j'ai enseigné, qui sont 80% issus de l'immigration dans la classe. C'est le défi de l'intégration, il est impossible à relever. Là. Ils vont faire comme n'importe qui, puis ils vont se rassembler ensemble, puis ils vont parler dans leur langue d'origine.
On ferait la même chose. Transfère-nous les francophones dans le reste du Canada, aux États-Unis, tiens, au Mexique, puis on se retrouve 80% de francophones dans la classe, on parle en français, là?
Ah ben, tout à fait, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Là, par contre, ce dont on parle, c'est un véritable scandale. Parce qu'un pays, en bonne et due forme, c'est un territoire muni d'une administration capable de gérer ses frontières. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, moi, je vous révoque le statut de
Ben
pays.
Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. Depuis toujours, l'histoire l'a prouvé que c'était le minimum.
Si vous n'êtes pas capable de percevoir de la taxe, vous n'avez pas le statut d'administration qui se respecte. Même chose pour les frontières. Là, ce qu'on nous dit en plus, c'est ouais, ben c'est parce qu'on n'est pas vraiment capable de faire cette job-là. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on se facilite la tâche. Là, on parle de dizaines de milliers de personnes qui ont demandé le statut de réfugié et à qui on n'a pas fait passer une entrevue à un moment donné. Et on leur a juste dit, ben, écoutez, on va leur accorder le statut. Puis ça, on s'en est rendu compte quand on regardait, et j'ai toujours trouvé ça douteux, moi, le pourcentage de gens qui se faisaient, parce qu'il faut rappeler le processus, là. Quand vous arrivez aux frontières puis que vous demandez le statut de réfugié, on vous l'accorde tout de suite. On vous dit rentrez, installez-vous, puis on va regarder ça plus tard. Bon, moi, je me demande des fois si c'est pas, s'il n'y aurait pas façon de faire, pas un moyen de faire les choses différemment, mais peu importe. Là, le problème, c'est qu'on ne revient pas vers ces gens-là souvent en leur disant, là, viens t'asseoir devant nous, puis on va juste repasser au travers de ton histoire. Toi, tu fuis tel pays parce que tu es homosexuel, puis dans ton pays, tu es persécuté. D'accord, parfait. On fait plus ça. Donc, 80% des demandes de réfugiés sont acceptées. Et dans des juridictions semblables à la nôtre, hein, on n'est pas les seuls. Hein, il y a des pays qui ressemblent au Canada, mais c'est 40%. Fait que c'est le double. Fait que pour une raison étrange, il y a deux fois plus de gens qui sont véritablement des réfugiés qui arrivent à nos portes. Moi, quand j'avais les chiffres il y a quelques années, je trouvais ça bizarre. Là, on sait pourquoi maintenant. C'est parce qu'on ne fait pas le processus jusqu'à la fin.
Ça veut dire, Rémi, ce n'est pas d'être intolérant que de demander de la rigueur à nos paliers de gouvernement, parce que tu viens de le dire. On en accueille le double, puis là-dedans, il y a un fort pourcentage qu'on accueille les yeux fermés.
Oui, puis je veux dire, c'est encore une fois, moi, sincèrement, je n'en veux pas à ces individus-là qui fuient parfois des véritables situations dramatiques. Je ferais sans doute pareil. Par contre, il y a des gens qui utilisent la voie d'accès vers les réfugiés, ça c'est prouvé. On en a entendu souvent parler. Moi, on m'a raconté des histoires. Il y a des députés qui m'ont dit, j'avais dans mon bureau de circonscription, des femmes qui venaient, par exemple, accompagnées de leur mari ou de ce qui semblait être leur conjoint. Puis qui disait, moi, j'ai fui le Cameroun parce qu'au Cameroun, les homosexuels sont persécutés. Là, le député disait, mais êtes-vous homosexuel, madame? Parce que vous êtes accompagnée de ce qui semble être le père de vos enfants. Oui, non, ben là, je ne sais pas trop. Puis là, souvent, ces gens-là sont menacés d'expulsion, demandent aux députés de venir sur la place publique défendre leur dossier. Donc, il y a, écoutez, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça existe, d'accord? Puis souvent, ces gens-là ne veulent pas retourner chez eux pour d'autres raisons, mais des raisons qui ne sont pas admissibles pour se mériter le statut de réfugié. Donc, à un moment donné, un peu de sérieux, un peu de sérieux, sinon, ben, on n'est pas un pays qui se mérite le statut de pays.
Mais Rémi, je pense que ça, c'est la clé pour pas mal de dossiers qu'on trouve difficiles ou qu'on trouve sensibles en ce moment. On est obligé pour certains de se taire pour pas se faire pointer du doigt en disant ben, vous êtes raciste, vous êtes intolérant, etc. Mais en faisant ça, on a laissé beaucoup aller et encore plus au niveau gouvernemental quand c'est pas une question citoyenne, mais c'est une question de politicien qui n'ose pas aborder de vrais sujets. Est-ce qu'on va perdre encore une fois ce courage politique-là dans les prochaines années? Comment est-ce qu'on peut rétablir ces discussions-là, selon toi?
Bien, moi, je pense qu'il faut être à l'écoute des citoyens. Donc, il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de cette espèce de nonchalance administrative, y compris des citoyens qui sont issus de l'immigration, qui disent, nous autres, on a respecté le processus. On est rentré, ça a été compliqué, mais on savait que ce pays-là valait la peine que ça soit compliqué dans ce processus-là. Et aujourd'hui, on est intégré, puis aujourd'hui, on est fier de là, puis on voit du monde qui passe comme ça dans les filets du système. Même ces gens, il y a des sondages qui sont faits au Canada anglais, et dans certaines provinces, la population issue de l'immigration est encore plus en défaveur des seuils d'immigration que la population dite native, ou WASP, là, White Anglo-Saxon Protestant Anything. Non. On l'a. C'est une vraie réalité. Il faut arrêter de mettre les gens dans les catégories. Il y a les Blancs, il y a les Autochtones, puis il y a les immigrants, puis les immigrants sont. Non, non, parce que quand vous restez ici, vous finissez par comprendre qu'il y a un poids sur le logement, qu'il y a un poids sur les services publics. C'est un fait mathématique. Donc, écoutons les gens. C'est la première étape. Ces gens nous disent quelque chose, ils nous disent c'est assez, il y en a eu trop. Et à un moment donné, l'État doit écouter cette volonté populaire-là. C'est son travail premier.
Chose certaine, Rémi Villemur, on vient de faire un excellent travail parce qu'on vient de parler d'immigration sans rentrer dans les clichés de façon intelligente et structurée. Tu sais comment j'aime tes chroniques, mon ami. Tu sais comment j'aime discuter avec toi. On se reparle jeudi parce que, cher auditeur, Rémi Villemur est avec nous à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h05, 13h10.
Bye bye.
Salut Rémi, merci beaucoup. Bye. Discussion très sensée que vous allez retrouver sur le blvd.fm, une autre façon de nous écouter avec la web radio. Et si vous n'avez pas téléchargé l'application Boulevard, faites-le rapidement parce que c'est le meilleur moyen de nous écouter partout en province.
Ce que je trouve plate en politique, par exemple, c'est qu'au moment où, mettons, toi, tu es au pouvoir, OK, puis tu essaies d'aborder ces questions sensibles-là, tout de suite, un autre parti qui est dans l'opposition, on va en profiter pour te peinturer dans le coin. Mais c'est de la démagogie politique, finalement, parce qu'un autre parti qui s'est au pouvoir aurait à gérer ces discussions sensibles-là, puis on s'auto-cannibalise, du moins, on s'auto-censure, puis on oublie d'en discuter, puis ça amène probablement des débordements. Puis après, ben, on doit couper en immigration, puis ça amène à couper comme dans le programme PEC, qui désoriente totalement plein de strates gouvernementales. On parle de la santé, on parlait de l'éducation cette journée-ci, là, dans l'actualité, près de 1000 personnes qu'on va perdre dans le domaine de l'éducation qui sont qualifiées pour travailler auprès des enfants avec la finalité de ce programme-là.
T'sais. En effet, il faudrait mieux gérer les personnes réfugiées et les demandeurs d'asile en premier lieu. Après la pause, entrevue avec Marie-Ève Schaeffer, journaliste pour le Protégez-vous. Excellente enquête avec des clients mystères sur les résidences pour personnes aînées, les fameux RPA. On va en parler parce qu'il y a des constats très troublants qui en sont ressortis dans un instant à Boulevard 102, l'émission On en jase.